pour demain. Celle qui crie pour vous. Une forêt d'enfants donnant la main. Des cœurs battants juste pour vous.
Nos crayons copient vos ramages. Nos chansons portent vos couleurs. Nous voulons hériter d'un paysage où poussera encore le bonheur.
Bonjour, vous êtes bien sur 89.4 Radio Libertaire et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. C'est Gaëlle au micro et je vous souhaite une bonne rentrée, les enfants, les élèves et tous les adultes qui les accompagnent. Aujourd'hui, on rediffuse des séquences autour de la rentrée. D'abord, qu'est-ce qu'on peut enregistrer pour la radio ? Ensuite, la rentrée s'est faite il y a quelques années en CP dédoublé et les élèves posent des questions sur ce sujet à leur maîtresse. Ensuite, on interviewe le chanteur ivrien Merlot qui a été très généreux avec les élèves et leur a raconté beaucoup d'éléments, il leur a fait écouter beaucoup de chansons également. Puis on rediffuse deux séquences autour de l'incinérateur d'Ivry. La première séquence permet d'analyser deux photographies de presse qui montrent de manière très différente l'incinérateur. Et la deuxième, c'est une interview de Mathilde Rousseau qui fait partie du collectif 3R d'Ivry, un collectif qui se préoccupe des conséquences des incinérateurs sur leur environnement. Bonne écoute.
Bougies cette année. Mais connaissez-vous vraiment notre radio scolaire ? Saviez-vous que Radio Cartable s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, aux enfants aussi bien qu'aux adultes ? Et ce n'est pas tout ! Les élèves de maternelle nous proposent régulièrement des histoires.
Petite souris, je veux être ton mari.
Chante pour moi que j'entende ta voix.
Le moindre conflit sans se donner la chance et depuis tout ce temps de saluer la naissance d'un ancien combattant. On ne sait plus faire la guerre, ça n'est pourtant pas con. Manque de militaires, de blindés, de canons. Que leur faut-il encore ?
Mon papa.
Ou des reportages sur leurs activités en classe, comme ici lors d'une sortie en forêt.
On n'avait pas le droit de cueillir les champignons.
Parce que le maître, il croyait que c'était pas les bons champignons. Si on les mangeait, on pourrait être malade.
Pour les grands, Radio Cartable, c'est aussi une heure de direct chaque jeudi.
Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable. Aujourd'hui, jeudi 17 mars, nous allons vous annoncer le sommaire de l'émission du jour. Au micro aujourd'hui, mon équipe de talentueux journalistes, à gauche, Willéane.
Hello, my name is Willéane.
Avec des discussions très sérieuses.
Bah moi quand je choisis un amoureux, quand je suis tout de suite en ce moment, je choisis tout de suite.
Des revues de presse dignes des meilleurs JT.
Nous sommes le jeudi 24 mars 2016 et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs. Voici les titres. International. L'un des faits marquants de cette semaine, c'est bien sûr la visite de Barack Obama, le président des États-Unis, à Cuba.
Des jeux,
Définition numéro 1. C'est un aliment sucré produit à partir de la fève de cacao et que l'on peut manger pendant les fêtes. Mais Sarah, elle en mange tout le temps.
Pendant cette heure d'émission, il y a bien sûr des reportages. École Libris.
Les livres qu'il faut lire.
Aujourd'hui, nous accueillons Atik Rahimi, le célèbre écrivain qui a reçu le prix du Goncourt en 2008.
Bonjour, est-ce que ça vous fait plaisir de nous voir?
Bah, bien sûr. J'ai l'air triste.
Non. La musique, c'est chic.
Vous connaissez le punk rock, vous?
Généralement, le punk a un t-shirt, un blouson en cuir et un jean. Mais il a parfois une épingle à nourrice dans le nez ou l'oreille.
Et même une crête d'iroquois en guise de coupe de cheveux.
Notre radio vient aussi à la rencontre des commerçants du quartier ou des lieux culturels de la ville, comme ici, avec le théâtre El Duende.
Ici, c'est nos bureaux. Alors, vous allez voir une partie des comédiens. Donc, là, il y a Mathieu qui vient d'arriver. Donc, là, il y a Louise.
Radio Cartable, ce sont aussi des rencontres exceptionnelles et des interviews dans notre studio.
Reportage dans mon cartable.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le député Jean-Luc Laurent qui va nous présenter son métier et son travail au quotidien. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Il y a encore plein d'autres choses durant cette heure d'émission hebdomadaire. Mais le mieux, c'est que vous le découvriez par vous-même, non? Alors, tous les jeudis, on vous donne rendez-vous sur 89.4 FM entre 14h et 15h, sans faute.
Chers auditeurs, il est 14h32. Vous êtes toujours sur Radio Cartable. Et maintenant, place à notre reportage de la semaine. Les épées 2 de l'école Maurice Thorez B ont posé des questions à la maîtresse pour savoir comment s'est passée cette rentrée en CP dédoublé.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour messieurs, dames. Vous êtes sur Radio Cartable. Notre radio à nous.
Mais qui sommes-nous?
Je vois se présenter avant tout. Coucou, je m'appelle Alicia.
Bonjour, je m'appelle Yacine.
Coucou, je m'appelle Cristiano.
Coucou, je m'appelle Henriette.
La radio des écoles d'Ivry.
Nous sommes la classe de CP2 de Madame Berrao.
Le CP, c'est pas comme la maternelle.
Cette année, on a deux devoirs à la maison.
Maintenant, on a des chaises et des bureaux.
Moi, j'en avais déjà l'année dernière, Yacine. Autre changement, on est moins nombreux cette année au CP.
À ce sujet,
nous allons poser
quelques questions
à notre maîtresse,
Madame Berrao.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour Madame Berrao, nous avons quelques questions à vous poser.
Très bien.
Comment allez-vous Madame Berrao?
Je vais très bien, merci de me le demander.
Pourquoi avez-vous choisi le métier de maîtresse?
Pourquoi j'ai décidé d'être maîtresse? Alors, c'est une question qui est très bien. Et j'ai décidé d'être maîtresse pour pouvoir travailler avec des enfants formidables comme vous, pour leur apprendre à lire, à écrire et à compter.
Avez-vous choisi d'être maîtresse en CP?
Alors, j'ai choisi d'être maîtresse de CP parce que je trouve qu'il est important de bien commencer sa scolarité. Et je trouve que c'est intéressant d'accompagner les enfants qui sont en maternelle et de les aider à devenir des grands qui vont arriver et réussir leur CP. C'est une classe qui est très enrichissante et on apprend tous les jours et on s'amuse tous les jours.
Pouvez-vous dire
auditeurs. Combien nous sommes dans la classe ?
Combien d'élèves vous êtes dans la classe ? Peut-être que l'on peut demander à quelqu'un d'autre de répondre à cette question.
Combien nous sommes dans la classe ?
Nous sommes 13.
Pourquoi y a-t-il moins d'élèves qu'avant au CP ?
Alors c'est une bonne question, merci de me l'avoir posée, monsieur Yacine. Nous sommes moins qu'en maternelle parce que nous sommes cette année une classe test. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par notre ministre de l'Éducation et notre président. En fait, c'est pour aider les élèves à mieux apprendre parce que s'il y a moins d'élèves dans la classe, on peut s'occuper davantage des personnes. Quand on fait les exercices, par exemple, tout le monde peut passer au tableau. Tout le monde, le matin, peut faire de la lecture. On peut faire beaucoup plus de choses. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, la maîtresse peut rapidement venir vous aider.
Aimez-vous être dans la classe de CP et travailler de cette manière ?
Est-ce que j'aime d'abord être au CP ? Oui, j'adore être au CP. J'adore être avec les CP2 surtout. Pour l'instant, c'est ma classe préférée. Travailler de cette manière, je n'ai pas le recul nécessaire. Je ne sais pas encore si ça va être bien. Il faudra me reposer cette question à la fin de l'année, puisque c'est la première fois que l'on travaille comme ça.
Merci d'avoir répondu à notre question, Madame Berrao.
Merci à vous de me les avoir posées.
Reportage dans mon cartable.
Qu'est-ce que vous aimez à l'école ?
Moi, j'aime bien quand on fait des sorties.
Moi, j'aime bien jouer.
Moi, j'aime travailler. J'aime les mathématiques.
Moi, j'aime bien colorier.
Moi, j'aime bien faire des travaux comme écrire et lire.
Moi, j'aime bien quand on fait des jeux avec la maîtresse et aussi quand on joue au toupie.
Moi, j'aime bien faire du sport. J'aime bien travailler et j'aime bien lire et à écrire.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Je m'appelle Albilal.
Bonjour, je m'appelle Héloïse.
Bonjour, je m'appelle Orphila.
Bonjour, je m'appelle Angélica.
Bonjour, je m'appelle Stéphane.
Nous sommes les CM1B de l'école Jacques Solomon et nous allons interviewer aujourd'hui, pour vous, Manuel Merlot.
Mais dis donc, Héloïse, c'est qui ce Merlot ?
Eh bien, Merlot, c'est un chanteur ivrien né en 1974. Il faisait auparavant partie d'un groupe de reggae, le groupe Baobab, avec qui il a sorti 4 albums.
Aujourd'hui, nous l'interviewons à l'occasion de la sortie de son premier album en solo, Chanson d'amour et de haine, sorti le 16 juillet dernier.
Bonjour Merlot, accepterais-tu de répondre à nos questions pour tous les auditeurs de Radio Cartable ?
Bonjour, c'est moi Merlot, je suis très enchanté de rencontrer les enfants qui s'occupent de les Radio Cartable.
Un loser, la 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 la, la 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 la. C'est à l'école que tout a commencé. Déjà à l'époque j'étais un entêté. Mon père et ma mère se faisaient du souci. Combien de fois le prof m'a dit: Merlot, c'est quoi ce torchon? C'est vraiment dommage car vous n'êtes pas con. Vous feriez mieux de penser à avoir le bac en poche plutôt que d'écouter Peter Tosh. Madame, je suis un quepon. Je n'ai pas d'avenir de toute façon. Y'aura plutôt plus à bouffer sur la planète quand j'arriverai à l'âge de la retraite.
Tu n'es qu'un loser, pas un patron.
Je sais,
tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un fainéant.
Je sais,
tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Ouais.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Je suis rentré chez moi un peu déconfit, un peu déprimé, dites-moi serais-je maudit. À peine dépassé la porte d'entrée, j'ai vu ma mère qui m'attendait sur le canapé. Merlot, j'attends des explications. Merlot. J'ai trouvé ça dans ta poche de pantalon. Regarde tes potes, regarde bien ta tête. Vraiment mon fils, tu m'inquiètes.
Tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Ah bon?
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Eh oui,
dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, pas un battant.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Un loser,
tu n'es qu'un loser,
un loser.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
J'avais besoin de renflouer mes caisses, ma mère m'ayant prié de changer d'adresse. Je suis allé rencontrer plein de stress, un grand producteur du show business. Je chante, je danse et j'écris mes textes. J'ai même amené avec moi la plume dans mes fesses. Il m'a dit je cherche un truc bien gentil, du genre un peu raga, un peu R&B. Il m'a dit Merlot, ça vaut pas un clou. Tu peux remballer tes chansons toutes cheloues. Croisant mon expérience, faut laisser tomber. Tu devrais aller chercher un vrai métier.
Tu n'es qu'un loser, pas un battant.
Ah bon?
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Je sais, je sais.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Eh oui.
Dis-moi que vas-tu faire de ta vie.
Oui, oui, oui.
Tu n'es qu'un loser, pas un battant.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit. Dis-moi que vas-tu faire de ta vie. Tu n'es qu'un loser.
Merlot.
Tu n'es qu'un loser.
Merlot.
Un loser. Loser.
Comme je n'entrais toujours pas au bain-douche, je suis allé voir mes potes les manouches. Comme je n'ai pas percé dans la variété, j'ai essayé la bandicité. On vivait dans un parc à Choisy et on rentrait chez les gens la nuit. Mais quand on est loser, ouais c'est pour la vie. Un soir on est entré chez la fille Sarkozy, c'en était fait de nous. On a pris 2 ans et on a pris sur nous. Quand au tribunal le juge m'a regardé et m'a dit Merlot, vous savez,
tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Feignant.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit. Dis-moi que vas-tu faire de ta vie. Tu n'es qu'un loser, pas un battant.
Ouais.
Tu n'es qu'un loser, tu n'es qu'un feignant.
Un loser.
Tu n'es qu'un loser, on te l'a toujours dit.
Tu n'es qu'un loser, pas un battant. Tu n'es qu'un loser, ouais. Loser, ouais. Loser, pas feignant. Loser, ouais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
D'abord, Merlot, pourquoi avoir pris ton vrai nom pour faire ce disque?
Ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce que c'était plus simple. Et puis parce que c'est des chansons qui parlent de choses que je connais bien, qui sont proches de moi. Donc j'avais envie que ça soit mon nom, que ça soit moi, que j'invente pas un nom, que ça soit mon vrai nom. Voilà. Et puis je trouvais que c'était pas mal aussi, Merlot, que je trouvais que ça sonnait bien.
Viens-tu d'une famille de musiciens ?
Non, pas du tout. Mes parents n'étaient pas du tout musiciens et j'ai découvert la musique par d'autres gens, des amis, des copains au lycée, surtout au lycée. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ma classe avec qui on s'est intéressé à la musique et puis on est devenus musiciens ensemble. Voilà.
Depuis quand es-tu musicien, Merlot ?
Eh ben écoute, depuis quand ? Depuis, en fait, on a commencé au lycée, comme je vous disais, on était lycéens, on a commencé et puis on a été jusqu'au bac, on a essayé d'être sérieux et d'aller jusqu'au bout du cursus du lycée, donc d'aller jusqu'au bac. Et parce que nos mamans, elles nous regardaient avec des yeux comme ça en se disant, mais dis donc, mais tu veux faire de la musique, mais et les études ? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Parce que la musique, c'est pas un métier. Donc on a quand même insisté, on a eu notre baccalauréat. Vous savez ce que c'est que le bac ? Bon ben voilà, on a eu notre bac. Et après le bac, on a fait que de la musique, c'est devenu notre métier, donc à 18 ans.
À notre âge, tu rêvais déjà de faire de la musique, ton métier ?
Ah non, pas du tout. Non, je voulais être vétérinaire, je crois. Ou pompier.
Dans ta chanson « Loser », tu parlais de l'école. Et alors Merlot, comment c'était l'école pour toi ?
C'est bien. Alors à l'école, moi j'étais à l'école à à Einstein. Vous connaissez Einstein ? L'école Einstein ? Ben moi, j'étais à l'école Einstein. Et je crois que j'étais un assez bon élève, mais j'étais un petit peu dissipé, comme on dit. Mais sinon, j'étais un bon élève, j'avais des bonnes notes. Donc la chanson, c'est pas complètement vrai.
Pourquoi as-tu décidé de jouer en solo ?
Parce que, comment dire, maintenant je me retrouve tout seul parce que j'avais envie de pouvoir décider de tout ce que je faisais. Avant j'étais dans un groupe, et un groupe tu dois demander tout le temps aux autres leur avis. C'est super bien parce que t'as des amis et puis tu fais des choses avec eux, tu partages plein de choses, mais c'est compliqué aussi un groupe parce que... il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, moi, j'ai vécu ça pendant longtemps et j'avais envie de pouvoir décider un petit peu de tout et puis de pouvoir faire vraiment ce que j'avais envie comme musique.
Quel souvenir gardes-tu de ton premier groupe Baobab ?
Eh bien, c'était un merveilleux souvenir parce que ça a commencé à l'école et puis on a continué pendant 10 ans. Donc, on était des vrais amis et en même temps, on travaillait ensemble. Donc, c'était très agréable. Et puis c'est un groupe avec lequel j'ai beaucoup voyagé. On a été faire des concerts en Afrique, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Afrique du Sud. On est allé en Palestine, on est allé aux Antilles. Donc on a beaucoup voyagé et c'était très enrichissant pour nous. Et puis on a fait plein d'albums. Donc on a vraiment vécu. C'était une très belle histoire, tu vois. C'était une très belle histoire de copains. On a eu des enfants presque en même temps. On était une famille, tu vois. Donc ça, c'était bien. Ça, c'est ça, mon souvenir.
Pourquoi avoir coupé tes cheveux après avoir quitté ton groupe ?
Comment tu sais que j'avais des cheveux avant et que j'en ai plus maintenant ? Je comprends que tu sais, mais...
Sur le portrait d'Ivry Maville.
Eh bien, écoute, j'ai coupé mes cheveux parce que ils étaient trop lourds. Ça me tirait les cheveux, donc il fallait que je les coupe. Voilà, c'est pour ça. Et puis parce que je les perdais aussi un petit peu, tu vois, regarde là. Il n'y en a presque plus.
Pourquoi avoir appelé ton premier disque solo « Chanson d'amour et de haine » ?
Alors, écoute, c'est parce que... je pense que dans la vie, il y a les belles choses et puis il y a les choses difficiles. Et que la vie, c'est tout ça. C'est les belles choses et les choses difficiles. C'est comme quand on parle, il y a les gros mots et puis il y a les mots savants. Quand on a une amoureuse, il y a l'amour et puis il y a aussi les disputes. Donc la vie, c'est tout ça. C'est ces deux choses-là. C'est jamais tout rose et c'est jamais tout noir non plus. Donc c'était pour parler de ça. Je sais pas si tu comprends, mais voilà.
C'était clair, mais quand vous dites qu'on a une amoureuse, on ne peut pas avoir la vie tout en rose. Est-ce que vous avez la vie en rose ? Un peu.
Eh ben, il y a plein de choses qui sont roses. Il y a plein de belles choses dans la vie, ouais, c'est vrai. Surtout quand t'as une amoureuse, ça rend la vie un peu plus rose, ouais, c'est vrai.
Aimes-tu être sur scène et pourquoi ?
Ah bah oui, alors là vraiment, c'est vraiment s'il y a bien un endroit où je suis bien, c'est là, c'est sur scène. C'est là que je prends vraiment plus de plaisir. Et puis c'est là qu'on regarde les gens dans les yeux. C'est là qu'il y a un vrai échange. Voilà, il faudrait que vous veniez voir. Et faire des disques, c'est plus pour... c'est une manière de faire connaître tes chansons pour pouvoir faire des concerts. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est les concerts. J'ai commencé comme ça. Et encore maintenant, hier, tu vois, j'étais en concert. Donc c'est mon vrai travail, c'est les concerts.
Comment définirais-tu ta musique pour les auditeurs de Radio Cartable ?
Eh ben, ma musique, elle mélange plein de genres musicaux. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme genres musicaux, vous ? Comme genre de musique ?
Il y a le jazz, le rap, le hip-hop, l'R&B, le rock.
Eh ben voilà, moi, tous les styles qui existent, je les prends et puis j'en fais quelque chose. Donc, j'ai pas de limite, tu vois, j'écoute moi aussi, j'ai écouté du R&B, j'aime beaucoup le rap, j'écoute aussi de la chanson, j'écoute Pierre Perret, Renaud, je sais pas si vous connaissez. J'écoute vraiment tous les styles de musique et puis j'essaye de faire à ma sauce en me servant un petit peu partout. Voilà, donc il n'y a pas vraiment un style particulier, mais on dit que ça s'appelle de la chanson, ce que je fais, à ce qui paraît.
Où trouves-tu l'inspiration de tes chansons ?
Eh bien, dans la vie, en regardant mes copains vivre... en regardant les gens autour de moi, en regardant le monde comme il est fait. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est en lisant des livres aussi, en allant au cinéma. Toutes les choses de la vie peuvent servir à faire des chansons.
On m'a donné le revenu minimum pour me payer un repas minimum pour vivre ma vie.
perds pas plus que le minimum. Moi qui suis mi-humain et mi-micro, je remercie le bon Dieu pour ce qu'il m'accorde dans sa très grande miséricorde. Je n'ai pas mes entrées au ministère, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas leur plaire.
Je dois vivre une vie en miniature et je dors la nuit dans une boîte à chaussures.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Es-tu influencé par la ville d'Ivry ?
Ah bah oui, alors là sur ces chansons-là, oui, beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à Ivry en faisant ces chansons. Et puis moi je suis né à Ivry, j'ai grandi à Ivry, donc je connais plein de choses ici et je connais beaucoup de gens. Et donc ouais, cette ville elle me parle beaucoup et j'aime bien parler de cette ville parce que je l'aime beaucoup.
Commences-tu par écrire les textes ou bien la musique ?
Eh ben, il y a plusieurs façons en fait de faire des chansons. C'est des fois tu peux commencer, tu fais une musique et puis tu trouves des paroles qui vont bien dessus, tu vois. Et puis il y a des fois bah tu as une chanson qui commence par un texte que tu as écrit comme une poésie et puis après tu rajoutes la musique par dessus. Et moi sur ces chansons-là j'ai commencé vraiment par écrire d'abord des paroles et après selon le thème de la chanson, selon tes paroles, et ben on trouvait une musique qui collait bien avec les paroles. Voilà, c'était dans cet ordre-là.
Que penses-tu d'Internet ? Et est-ce que cela t'a permis de te faire connaître ?
Ah bah oui, carrément. Internet, c'est devenu très important aujourd'hui. Et tout le monde sait s'en servir, et puis c'est un moyen de se faire connaître vraiment directement. Les gens, t'as pas besoin d'avoir une maison de disques ou d'avoir de l'argent pour faire de la publicité, pour faire connaître ta musique, tu peux directement faire connaître en direct, ça rentre chez les gens. Donc moi je m'en suis servi, je sais pas, peut-être que vous regarderez un jour, on a fait plein de petits clips, on a mis notre musique sur internet, et comme ça on s'est fait connaître, c'est comme ça que ça a commencé, pour nous. En fait vous pourrez regarder, j'ai un petit site qui s'appelle MySpace Merlot, vous tapez MySpace et Merlot et vous trouverez... Il y a plein de chansons, il y a plein de choses.
Ça s'écrit comment, MySpace ?
C'est vrai que c'est un petit peu en anglais. Ça s'écrit M-Y-S-P-A-C-E.
Je voudrais vous demander, quand nous tapons MySpace Merlot sur Google, faut-il écrire 3W avant ?
Non, si tu tapes ces deux mots-là, normalement, tu arriveras directement, tu arriveras très vite sur mon site.
Que penses-tu du téléchargement illégal ?
Écoute, moi-même je le fais, tu vois, quand j'ai besoin d'écouter des chansons, j'en télécharge des fois. pas beaucoup, mais un petit peu. Et puis je pense que pour moi, c'est comme si des gens se prêtaient une cassette ou un disque, tu vois, quoi. Comme si je te prêtais un disque et puis que toi tu m'en prêtais un, on faisait des échanges. Je trouve que c'est assez bien. Donc ça me dérange pas que les gens, par exemple, puissent écouter ma musique sans l'acheter. Pas du tout, ça me dérange pas. Voilà, parce que moi je considère que je fais mon métier en faisant des concerts. Donc mes chansons, bah, si les gens ils peuvent les écouter, tant mieux. S'ils les achètent, bah, tant mieux. Mais s'ils les achètent pas, c'est pas grave. Au moins ils connaîtront ce que je fais.
Mais êtes-vous bien payé ?
Bien payé ? Non, je gagne pas des millions et des milliards. Non, non, je gagne ma vie normalement en faisant ce que je fais, voilà. Et puis il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où tu gagnes un peu plus d'argent. La musique, tu sais, c'est pas forcément toujours évident, donc il faut vraiment aimer ce que tu fais pour faire de la musique.
Est-ce que vous aimez votre métier ?
Ah bah oui, j'aime beaucoup mon métier. Ouais, j'aime vraiment beaucoup mon métier. J'ai de la chance de pouvoir faire ce métier-là. Parce que je rencontre beaucoup de monde, je voyage beaucoup, et que en plus je peux faire des chansons avec ce qui me passe par la tête et je fais ce que je veux, donc c'est vraiment une grande liberté. Donc j'aime beaucoup ce métier. Ouais.
Quand vous dites que vous ça ne vous dérange pas que les gens téléchargent vos chansons sans les acheter, ça veut dire que ça ne vous aide pas de ne pas être payé ?
Ben non, ça me dérange pas en fait, tu vois, parce que moi je te dis, moi je suis payé quand je fais des concerts. Et si je vends des disques, je gagne un petit peu d'argent. Mais l'important pour moi, c'est de me faire connaître, tu vois. C'est de faire que les gens connaissent. Donc ça me dérange pas. Et puis je considère qu'une chanson, bah, ça peut aussi se donner. Comme il y a plein de choses qui peuvent se prêter ou se donner ou s'échanger, tu vois. Donc non, ça me dérange pas. Désolé.
Merci beaucoup, Merlot, d'avoir répondu à nos questions. Pour finir, accepterais-tu de jouer un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable ?
Allez, on y va. Une petite chanson. D'accord.
Reportage dans mon cartable.
Bon alors, c'est une chanson sur votre ville, hein. Sur notre ville, moi j'habite à Ivry aussi, donc ça parle d'ici, d'accord ? Vous aviez compris ? Vous savez ce que c'est le 9-4, ce que c'est ? C'est quoi ?
Le 94.
Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ?
Le département.
Et c'est quoi son nom au département ?
Le Val-de-Marne.
C'est tout toi, vraiment. Bon. Bon, j'y vais. Alors, certains voudraient pouvoir toujours vivre en pagne, partir vivre tranquille à la campagne, courir dans les champs des fleurs dans les cheveux, et nourrir les poulets puis manger leurs œufs. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en slip, habiter neuf d'eux dans une maison en kit, avoir une cheminée et un barbecue. Vivre loin des cons, vivre loin des fous. Excusez-moi pour les gros mots, il y a des gros mots. Hein. Certains voudraient pouvoir toujours vivre en string, habiter Paris pour avoir du feeling, vivre dans les bars pour être toujours high, et de pouvoir dire j'habite la butte aux cailles. Certains voudraient pouvoir toujours vivre à poil, partir à Bali ou bien au Sénégal, partir au Mali ou bien à Tahiti, vivre au soleil avec le RMI. Moi je veux vivre ici. Yeah. Vivre avec toi, vivre aujourd'hui, ouais. On est bien dans le 9-4, pas vrai? On feel alright. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas grave. Après, vous pouvez faire comme ça. Pas mal. Alors, certains voudraient pouvoir rouler en berline, passe dans la rue comme s'il passait un casting, le crédit signé jusqu'en 3044, et à la maison les gosses qui mangent des pâtes. Certains voudraient pouvoir rouler en Porsche, emballer tout ce qui bouge y compris les moches, tout dans la boîte à gants, pas grand chose dans le crâne, il a la voiture et il aura la femme. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en vélo, pour sauver les arbres et les petits oiseaux. Certains voudraient avoir une caravane pour aller s'installer là-bas sous les platanes. Ouais, certains voudraient pouvoir rouler en 4x4. Ceux-là se prennent pour des aristocrates. Certains voudraient pouvoir rouler en Merco. Ceux-là se prennent carrément pour des macros. Moi, je veux vivre ici. Wow. Vivre avec toi. Ouais. Avec toi. Vivre à Ivry. Wow.
pas vrai? On file, all right. Vous savez toujours pas ce que ça veut dire. Alors bon, on fait la fin quand même.
Moi je voudrais toujours vivre ici, vivre avec toi toute ma vie, sans avoir de trop grands besoins, sans avoir vraiment de soucis. Non, je veux vivre ici et être bien, je ne veux pas aller à Pékin.
Vous savez où c'est?
Je ne veux pas aller à Paris, pas non plus au Gobelin. Moi je veux vivre ici, oh, oh, oh. Oh, vivre avec toi, ouais, ouais, ouais. Vivre aujourd'hui, même dans le 9-3.
Vous savez c'est quoi le 9-3? Non, d'accord. C'est comme le 9-4 mais avec un 3, c'est vrai.
Vivre à Ivry, on est bien dans le 9-4.
Ouais. On feel all right. Ouais.
Dans le 9-4. Feel alright.
Ouais. Merci. Bravo.
Reportage dans mon cartable.
Alors, ça s'appelle C'est papa qui fait la cuisine. Chez vous, c'est qui fait la cuisine?
C'est
vous qui fait, c'est toi qui fais la cuisine. Bon, bah chez moi, c'est papa qui fait la cuisine. Alors,
chez nous, c'est papa qui fait la cuisine et maman qui bosse à l'usine. Papa qui fait la vaisselle et maman qui sent des aisselles. Papa qui fait la cuisine. Et maman qui bosse à l'usine, papa qui fait la vaisselle, et maman qui sort les poubelles. Mon papa tous les matins m'amène à l'école, et le reste de la journée, je sais pas ce qu'il bricole. Avec ses amis, si ça se trouve, il picole. C'est pas comme ça qu'ils vont devenir les rois du pétrole. Mon papa à la maison n'ouvre pas la bouche. Quand maman lui demande de me changer les couches, il s'écrase et il met sa langue dans sa poche. Papa à la pétoche. Chez nous c'est papa qui fait la cuisine et maman qui bosse à l'usine. Papa qui fait la vaisselle et maman qui... Chez nous c'est papa qui fait la cuisine. Tous les voisins hallucinent. Papa qui fait la vaisselle et maman qui sort les poubelles.
Voilà, c'est tout.
Merci Merlo d'avoir joué un petit morceau pour tous les auditeurs de Radio Cartable.
On espère que ton disque chanson d'amour et de haine se vendra beaucoup.
Et j'espère que ton disque sera pas piraté sur l'internet.
Bah merci, c'est le CM1B, c'est ça hein. Bah merci beaucoup à vous, ça m'a fait très plaisir. Je vais aller chercher mes enfants maintenant qui sont à Makarenko. Et puis bah j'espère qu'on se reverra. Hein, moi je ferai un concert en juin. Si vous voulez, je vous fais une proposition. En juin, je joue à la fête de l'enfance. Vous connaissez la fête de l'enfance? Si vous voulez, venez voir le concert. Et puis, si vous chantez un peu, eh ben, vous pourrez même peut-être monter sur scène, hein, CM1B. Si vous avez une chanson. Mais c'est vrai, hein, s'il y a une chanson, franchement, vous venez, d'accord? C'est le 20 juin, voilà. Et c'est, je rigole pas, hein, c'est sérieux. Donc, si vous avez une chanson, vous venez la chanter avec moi, d'accord?
Au revoir à tous les auditeurs de Radio Cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage
89.4 Radio Libertaire, c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Reportage dans mon cartable.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, nous sommes les CE2 CM2 de l'école Maurice Thorez B. Et cette année, nous allons décrypter pour vous des images d'actualité. Nous allons les présenter, les décrire et les analyser pour tenter de mettre en lumière le sens et la portée de ces images.
Je suis Alassane et je suis avec
Asita,
Aygin,
Anya.
Cette semaine, nous commençons par des photographies de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine.
Pour vous accompagner dans votre écoute, n'hésitez pas à utiliser la fiche d'écoute. Les deux images sont des photographies. La première photographie, tirée du journal mensuel local Ivry Ma Ville, parue en octobre 2025. Elle a été photographiée par Julie Suburi. Elle représente l'incinérateur de déchets situé à Ivry-sur-Seine. La photographie a été prise de jour.
Le cadrage est large. On voit à la fois le premier plan, le fond et le ciel. Elle semble être prise depuis un point de vue en hauteur, ce qui permet de voir toute la zone et les rails du chemin de fer.
Au premier plan, on voit des rails de train et des poteaux électriques. Au deuxième plan, un bâtiment en briques rouges au milieu des rails et des trains.
À l'arrière-plan se trouve l'incinérateur blanc et gris avec sa tourelle et ses deux cheminées hautes. Le bâtiment est rectangulaire et long. Il occupe une grande partie de l'arrière-plan. À sa droite, au fond, on distingue des immeubles d'habitation.
La lumière est naturelle et claire. La photo a été prise en plein jour, en été ou au printemps. Le ciel est bleu avec des nuages blancs. On a du mal à distinguer la fumée qui sort des cheminées, de l'incinérateur et les nuages blancs du ciel.
La deuxième photographie représente également l'incinérateur, mais elle a été prise la nuit. Le cadrage est plus serré sur le bâtiment principal. On voit surtout l'usine et ses cheminées qui dégagent de la fumée. On a l'impression que c'était depuis un immeuble ou une maison voisine. Ce n'est pas le même point de vue que sur la première photographie. On ne voit pas le même côté de l'incinérateur.
Au premier plan, on voit les silhouettes sombres du haut des arbres et du haut des immeubles voisins. Au deuxième plan, l'incinérateur éclairé et ses fumées blanches se détachent sur le ciel sombre. Les lumières sont cette fois-ci artificielles. Ce sont les lumières de l'incinérateur et de quelques immeubles voisins. Des lumières rouges clignotent sur la tourelle et sur les cheminées. Elles mettent en valeur la structure du bâtiment et les fumées. Cette photographie montre le fonctionnement nocturne de l'incinérateur qui fonctionne en permanence.
Ces deux photographies montrent le même incinérateur, mais pas de la même manière. La première prise de jour en plan large montre l'incinérateur dans son ensemble. Et dans son environnement urbain, elle donne envie de le visiter et d'en savoir plus sur son fonctionnement. La lumière du jour est rassurante et valorise le lieu.
La deuxième photographie, prise de nuit en plan serré, insiste sur le fonctionnement de nuit et les fumées qui se dégagent en permanence. La lumière artificielle nous fait presque penser à un bâtiment futuriste. Une atmosphère inquiétante se dégage de cette image. Cela ne donne pas envie de se promener à côté la nuit.
La première semble nous informer et la deuxième semble dénoncer le fonctionnement de l'incinérateur et ses fumées.
Nous avons également observé une photographie de l'incinérateur tirée du journal Reporter. Elle était cette fois centrée sur les deux grandes cheminées de l'incinérateur rejetant de la fumée grisâtre. Dans un ciel couvert, l'arrière-plan est sombre, les gros nuages renforcent l'atmosphère inquiétante. Cette photo semble également dénoncer les dangers possibles de l'incinérateur.
Voilà, nous avons fini de vous présenter les photographies de la semaine. Nous espérons que cela vous a intéressé et que vous en savez plus sur les différents types de prises de vue.
Nous vous retrouvons vite dans une prochaine émission avec d'autres photographies d'actualité.
L'émission.
émission vous a intéressé. Maintenant, sur 89.4 FM, vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, nous sommes les élèves de la classe CE2 de l'école Maurice RSB. Notre maîtresse s'appelle Marion.
Au mois de décembre, nous avons écouté une émission de Radio Cartable qui consiste à analyser des images illustrant des sujets de l'actualité.
Celle-ci présentait deux photos de l'incinérateur d'Ivry très différents l'une de l'autre.
Nous tenons d'ailleurs à remercier nos camarades de CE2, CM2 ainsi que la maîtresse Sarah.
Nous vous invitons d'ailleurs à écouter cette émission. Ce sujet nous a beaucoup intéressés et nous a donné envie d'en savoir plus sur l'incinérateur et la pollution.
Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Mathilde Rousseau, une mère d'élèves de notre école qui est coprésidente du collectif 3R.
3R signifie réduire, réutiliser, recycler. C'est, je cite, un regroupement d'associations citoyennes de quartiers attentives au cadre de vie et à l'environnement d'Ivry-sur-Seine et de la région parisienne. Voilà comment ils se décrivent.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour Mathilde Rousseau, qu'est-ce qu'un incinérateur ?
Bonjour, alors un incinérateur, le nom complet, c'est une usine d'incinération d'ordures ménagères. On peut l'appeler aussi UIOM, usine d'incinération d'ordures ménagères. C'est une usine qui va brûler les déchets de la poubelle d'ordures ménagères, c'est-à-dire les déchets qui ne vont pas au recyclage, ni du papier, du carton, ni du verre, et qui vont être brûlés pour être traités de cette façon-là.
Pourquoi l'incinérateur a-t-il été construit à Ivry ? Et à quoi sert-il ?
L'incinérateur a été reconstruit à Ivry. En fait, il faut savoir que sur cette zone-là, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'habitations. Et ça fait à peu près une centaine d'années que sur la zone de l'actuelle usine d'incinération, il y avait déjà de l'incinération des ordures ménagères. Donc depuis à peu près 100 ans, on brûle des déchets et à chaque fois, on a reconstruit une usine dessus. Donc la première usine a été construite formellement, enfin usine d'incinération d'ordures ménagères a été construite en 1969. Elle a été modernisée plusieurs fois, notamment en 2005 pour être mise aux normes des techniques pour lutter contre la pollution aux dioxines. Et en 2009, il y a eu une réunion publique qui parlait de la reconstruction de l'incinérateur. Et c'est à ce moment-là que le collectif 3R s'est constitué. Il y avait à la fois des associations et des individus, des citoyens qui pensaient qu'il y avait d'autres façons de faire que de reconstruire une usine pour traiter les déchets ménagers. Mais malgré le débat public, eh bien, il a quand même été voté de reconstruire une usine d'incinération d'ordures ménagères. C'est la grande usine à côté des deux cheminées que vous voyez et qui devait entrer en service en 2023, mais qui n'entre pas en service. Donc, pourquoi le faire à cet endroit-là ? Parce que c'est depuis très longtemps à cet endroit-là qu'on brûle des déchets, qu'on traite les déchets de cette façon-là. Mais nous, ce qu'on pense au collectif 3R, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'habitants dans cette zone-là que ce qu'il y avait il y a 100 ans. Il y a de plus en plus de constructions, de plus en plus d'écoles qui ont été construites. Aussi bien côté Ivry que côté Paris 13 ou côté Paris 12 ou même côté Charenton. Et donc on pense que c'est pas une bonne idée que de, premièrement, traiter les déchets de cette façon, deuxièmement, les traiter de cette façon ici, dans cette zone très très dense, c'est-à-dire dans laquelle il y a beaucoup beaucoup de population qui est rassemblée.
De quelle manière l'incinérateur pollue-t-il ?
Quand on parle de pollution, il y a beaucoup de sortes de pollution. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, la pollution des sols. Donc l'usine d'incinération, ce sont des grands fours dans lesquels on va mettre tous les déchets qui arrivent, toutes les poubelles, et on va les brûler. Quand c'est brûlé, ça émet de la fumée. D'accord ? Cette fumée, elle va sortir par les cheminées, les deux grandes cheminées que vous voyez. Elle va être filtrée, mais les filtres, malheureusement, même si on essaye de faire au mieux, on ne peut pas enlever tous les polluants. Donc, il y a une pollution de l'air par ce qui est produit par les fumées. D'autre part, un incinérateur, c'est quelque chose qui brûle des déchets. Quand on brûle des déchets, on a l'impression que tout disparaît, mais ce n'est pas vrai, tout ne disparaît pas. Il y a ce qu'on appelle les mâchefers. Si vous faites un feu, à la fin, il va vous rester des petits bouts de bois, il va vous rester des cendres. Ben, c'est un peu pareil pour les ordures ménagères. Donc, ce qui est solide et ce qui est en fond, on appelle ça les mâchefers. 30% de ce qui est brûlé reste solide, donc c'est beaucoup. Et ça, après, c'est très, très, très toxique. C'est comme si on avait un concentré toxique de quelque chose. Et ben ça, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on ne peut plus le brûler, c'est quelque chose qui n'a pas été brûlé. Et on a aussi, alors là aussi c'est technique, les réfiums. C'est des cendres solides qu'on a récupérées dans les filtres. Et ça aussi, c'est très, très, très toxique. Et il faut les vitrifier. Il faut faire un processus pour les enfermer, en quelque sorte, pour pas qu'elles puissent se diffuser dans l'atmosphère. Et là encore, il reste plein de choses, en fait. Quand on a brûlé les déchets, on n'a pas tout détruit. On n'a pas tout fait disparaître par magie. En fait, il reste des choses qu'il va falloir traiter. Aujourd'hui, les mâchefers, on a beaucoup décidé de les mettre en remblai sur les autoroutes. Remblai pour les autoroutes, ça veut dire que on les met sous les routes, mais par-dessus on met du bitume et on en fait des routes. Mais le problème, c'est que si on les a mis sur les routes, ça va se diffuser dans le sol, les produits toxiques que ça contient. Et donc ça va venir polluer les sols. Donc en fait, il y a plusieurs formes de pollution. Il y a la pollution de l'air, la pollution solide qui reste, la pollution qui se diffuse à travers les résidus de l'incinération. Et la pollution de l'air, eh ben on sait qu'elle ne reste pas dans l'air. Elle va finir par se déposer dans les sols. Il y a la Seine juste à côté, donc elle va finir par se diffuser dans l'eau. Et malheureusement, ça fait un cycle. Après, ça se retrouve partout. Ça se retrouve dans nos poumons, ça se retrouve dans les aliments qu'on mange, ça se retrouve partout. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment réussir à bien, bien, bien limiter la pollution, voire l'éliminer complètement.
Les personnes qui gèrent l'incinérateur se rendent-elles compte qu'il y a un impact sur la Terre ?
Oui, les personnes qui gèrent l'incinérateur se rendent compte qu'il y a un impact sur les écosystèmes avec toute cette pollution. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des normes et qu'il y a des seuils à respecter. C'est pour ça qu'il y a des filtres, c'est pour ça. Mais malheureusement, nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Ils essayent de faire au mieux, ils essayent de mettre des filtres, etc. Mais il y a quand même de la pollution. Donc nous, ce qu'on pense au collectif 3R, c'est que ce mode de traitement des déchets, de l'incinération, ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Il faudrait commencer absolument par mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens dans la réduction des déchets. Aujourd'hui, dans une poubelle qu'on va envoyer à l'incinérateur pour qu'elle soit brûlée, il y a à peu près 80% qui ne devraient pas s'y trouver. Dedans, il y a des choses dangereuses qui vont particulièrement polluer parce qu'elles n'ont pas été mises au bon endroit, parce qu'elles se retrouvent dans l'incinérateur alors qu'elles ne devraient pas s'y trouver. Disons qu'il faudrait mettre beaucoup plus de moyens pour éviter des déchets, parce que dans le mouvement Zero Waste ou au collectif 3R, nous, ce qu'on dit, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Pourquoi vouloir polluer la Terre ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de volonté spécifique de faire exprès de polluer la Terre. Mais je pense qu'il y a des solutions qui sont choisies en disant bah, « c'est pas grave, faisons comme ça, c'est un moindre mal ». Et qu'en fait, ce ne sont pas les bonnes solutions. Ça demanderait beaucoup de courage et de volonté politique et d'argent aussi, de faire de la prévention, de changer nos modes de consommation. D'obliger les metteurs sur le marché à mettre des produits moins polluants, à peut-être mettre moins de produits sur le marché, à moins consommer, d'obliger tout le monde, les collectivités, les individus, les industriels, tout le monde à mieux trier ses déchets et à moins produire de déchets. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Les modes de traitement des déchets actuels polluent. Il n'y a pas d'incinération des déchets propres, donc il faut trouver une autre façon de gérer nos déchets.
Pourquoi avez-vous voulu vous engager dans ce combat contre la pollution ?
C'est une grande question, ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une source d'injustice environnementale et d'injustice sociale. Parce que ça a des conséquences sanitaires très fortes sur les gens qui habitent. Ça cause plein de problèmes de santé, plein de maladies. Des maladies qui ont parfois touché des gens dont, voilà, qui sont très proches de moi, dont je m'occupe, que j'aime très fort. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on laisse des gens vulnérables être malades à cause de la pollution. Donc je me suis dit, bon, comment on peut faire ? À ce moment-là, moi, j'étais parent élu à l'école des enfants. J'ai vu qu'il y avait ce gros problème de pollution. J'avais un enfant qui avait des problèmes respiratoires. Dès qu'il y avait un problème de pollution, j'avais un bébé qui ne pouvait plus respirer. Et je me suis dit, comment on fait pour limiter la pollution, par exemple, de l'air ? Et c'est comme ça que je me suis rapprochée du collectif 3R, qui réfléchissait à ces questions sur la zone dans laquelle j'habitais, à échelle très locale. Et voilà, donc je suis allée à des réunions, je les ai rencontrés, je trouvais que leurs propos étaient intéressants, qu'ils avaient des bonnes idées pour résoudre le problème. Et voilà, petit à petit, je me suis investie au sein de ce collectif.
Y a-t-il autre chose qui pollue l'air à Ivry ?
Et oui, et c'est bien le problème. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources de pollution à Ivry-sur-Seine. Il y a les voitures qui peuvent polluer, la combustion des moteurs, les pots d'échappement, les particules de frein, de plaquettes de frein, de pneus. Il y a beaucoup de circulation à Ivry, beaucoup de véhicules, donc il y a beaucoup de pollution de ce type-là. Il y a aussi la pollution issue des activités industrielles. Il y avait beaucoup d'industries à Ivry, c'était une ville ouvrière industrielle pendant très longtemps. Et ces industries ont généré de la pollution. Et cette pollution, elle est restée, par exemple, dans les sols. Oui, il y a beaucoup de sources de pollution. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se dire, bon, bah, puisqu'il y a plein de sources de pollution, ce n'est pas grave, on en rajoute. Et qu'il faudrait au contraire se dire, bon bah, on va essayer d'agir sur toutes les sources de pollution, on va essayer de dépolluer, et puis surtout d'arrêter de polluer. Parce que les pollutions vont créer des pathologies qui vont s'aggraver entre elles. Il peut y avoir des effets cocktail entre des sources de pollution différentes qui viennent se cumuler.
Est-ce que lorsque nous respirons, cela a des conséquences sur notre santé ?
Alors, j'aimerais beaucoup te dire que non, tout va bien, mais oui. C'est pour ça qu'il faut éviter la pollution, c'est parce que la pollution de l'air, évidemment, elle a des conséquences sur la santé.
L'incinérateur a-t-il également un impact sur les animaux et sur la végétation ?
Eh oui, ça va affecter notre santé à nous les humains, mais nous les humains, on fait partie d'un écosystème. Pour vivre, on a besoin de manger, boire, respirer. On a besoin de tous les éléments qu'il y a autour de nous. On a besoin de tous les animaux, on a besoin de tous les insectes. Même si on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, en fait, on en a besoin. Et donc, si nous, on est rendu malade par des choses toxiques, eh bien, les animaux aussi, et les insectes aussi, et tout l'écosystème dont on fait partie aussi. C'est un problème très global. Par exemple, l'usine d'incinération d'ordures ménagères, elle diffuse ce qu'on appelle des polluants organiques persistants. Et on les appelle des polluants organiques persistants parce qu'en fait, ils vont rester dans la nature pour une très, 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 très longue durée qui excédera largement la durée de notre vie. Et on peut pas ensuite les faire disparaître. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait ne pas les créer.
Qui a commencé à polluer la Terre et quand ?
De ce que j'ai compris, on peut considérer qu'il y a de la pollution à partir du moment où il y a de l'activité humaine. C'est-à-dire qu'on peut considérer comme de la pollution la suie qui était émise par les hommes préhistoriques dans les grottes. J'ai lu aussi qu'en 1272, il y avait beaucoup de houille. Donc ça, c'est une énergie fossile. Et donc, il y a un roi qui a produit qui a demandé à ce qu'on arrête d'utiliser la houille parce que ça faisait trop de pollution. Mais à cette époque-là, on ne parlait pas de pollution. Le terme de pollution, il est plutôt arrivé à partir de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est le 19e siècle. C'est l'essor de la machine à vapeur, c'est l'essor de... On utilise beaucoup, d'énergie fossile, du charbon. Ça génère de la pollution. Et en fait, ça passe dans le langage commun dans les années 70. Dans les années 70, de façon un peu plus générale, on commence à connaître le principe de pollution. On commence à se rendre compte que ça a des conséquences sur l'air, sur l'eau, sur les écosystèmes dont on fait partie. Et voilà, dans les années 70, le concept de pollution se développe et on comprend de plus en plus l'impact des activités humaines sur la Terre.
Quand a-t-on commencé à lutter contre la pollution ?
Bonne question. Probablement depuis qu'elle existe, on a besoin des scientifiques pour comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe et qu'on a pu l'évaluer, le mesurer, le comprendre, alors on va pouvoir mettre en place des organismes qui vont essayer de réguler, comme le GIEC, peut-être passer des lois aussi pour dire, tiens, il y a cette pollution qu'on connaît, comment on fait pour la réduire, voire l'éliminer complètement.
Merci beaucoup de vous être déplacé pour répondre à nos questions. Bonne année à vous et à tous nos auditeurs et souhaitons moins de pollution.
Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous, à tous les élèves des CE2 de l'école Maurice Thorez, à tous les élèves d'Ivry et très bonne année à tous.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission est consacrée à Jean-Jacques Bedu et au premier volume d'une trilogie qui fera date. L'Odyssée du savoir, sous-titré Vraie sagesse et fausses croyances, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Jean-Jacques Bedu, qui a déjà toute une œuvre à son actif, a remporté le Grand Prix de la biographie de la Société des gens de lettres et a fondé le site internet et le prix Mare Nostrum consacré à la littérature méditerranéenne. Il nous propose ici, dans ce premier tome de 696 pages, une passionnante enquête sur les fake news qui ont traversé l'histoire. Dans une récente chronique publiée dans le journal Le Monde, Roger Paul Droit voit dans ce premier volet de cette Odyssée du savoir un monumental panorama qui peut se lire comme un guide de voyage dans l'histoire de l'aventure de la connaissance humaine. C'est assurément une fresque encyclopédique du troisième millénaire que je vous invite à découvrir en compagnie de Jean-Jacques Bedu. Je tiens juste à préciser que cet entretien a été enregistré en extérieur, plus exactement dans un jardin public, ce qui explique, veuillez m'en excuser, certains bruits de fond. Mais le hasard et la nature participent aussi à l'aventure du savoir, et je suis sûre que l'érudition de Jean-Jacques Bedu saura vous convaincre des bienfaits d'une telle réflexion. Jamais en effet l'information n'a été aussi accessible, et jamais nous avons eu autant besoin d'esprit critique face au mirage d'un passé sans cesse réinventé.
Jean-Jacques Bedu, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous venez de publier aux éditions du Cerf l'Odyssée du savoir, vraie sagesse et fausse croyance. Le sous-titre ici a son rôle à jouer, puisque j'ai l'impression... On s'interroge sur vraie sagesse et fausse croyance. Est-ce que ça signifie que vous préférez le mot sagesse au mot croyance ? Ou peut-être, l'idée est peut-être la suivante, c'est vrai que pour une sagesse, il faut du temps, alors que la croyance est immédiate.
Alors, tout à fait, c'est une très belle formule. J'aurais même presque pu l'employer dans le livre. Je vais faire un petit peu d'histoire. En réalité, cet ouvrage fait écho à mon tout premier livre qui a été publié en 1990, qui s'appelle Reine de Château, autopsie d'un mythe, où je me suis retrouvé confronté à l'époque à une histoire absolument rocambolesque d'un curé qui avait trouvé un trésor dans l'Aude, donc la Buissonnière. C'est une histoire qui était très connue encore dans les années 80. Elle est née dans les années 60, mais il s'agissait d'une supercherie littéraire absolument incroyable. Ce que j'ai pu totalement démonté. Et à l'époque, j'étais persuadé que j'avais écrit le livre qui allait tout chambouler, qu'on n'allait parler plus que de moi. Et en fait, que nenni, donc je me suis aperçu que, on préférait croire avant de savoir et qu'on avait une appétence incroyable pour le mystère. J'ai fait de nombreuses conférences et à chaque fois, alors que j'arrive à démontrer que tout ce qui a été écrit n'était que supercherie, en fait. Hein. On est un peu à l'époque, quand l'affaire a démarré, c'est le Matin des magiciens, vous vous en souvenez, hein, le réalisme fantastique. Donc, en fait, cette histoire est exactement sur le même paradigme. Et à l'issue de chaque conférence, des gens venaient me voir en me disant « Vous avez raison, vous avez raison. » Mais il y a Mais quand même, il y a quelque chose. Et ça, c'est vraiment un fait qui a toujours posé un problème en disant, mais quand même, on arrive à prouver, il y a de fausses croyances.